Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5? Là!
Creature Shock Radio FM. The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
We'll be right back. chers auditeurs, chères auditrices,
cette chronique contient des spoilers. Attention, je vais divulgâcher.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de Sigourney Weaver et en particulier de son rôle dans la saga Alien. Dans la dernière saison de la série 10%, elle joue son propre rôle, comme toutes les stars invitées. Sigourney Weaver, 70 ans alors, est attendue à Paris pour tourner une histoire romantique entre seniors avec un acteur octogénaire pour partenaire. Mais c'est une femme athlétique, d'une énergie presque surhumaine, qui débarque. Elle fait installer des appareils de musculation dans sa chambre d'hôtel et récuse le vieil amoureux de fiction qu'on lui destinait. Quelque fantaisiste soit cette vision de l'américaine par des scénaristes français, elle résume bien certains traits communément prêtés à Sigourney Weaver. Pionnière du film d'action porté par une femme, elle a forgé son ADN d'actrice tout au long des quatre premiers volets d'Alien entre 1979 et 1997. Aujourd'hui encore, il semble inévitable de considérer son parcours et son originalité à travers le prisme de la saga de science-fiction créée par Ridley Scott. Sigourney Weaver, débutante à la fin des années 70, n'est pas l'actrice la plus connue du premier Alien. John Hurt et Ian Holm font partie de l'équipage. Mais elle seule réchappe à l'attaque finale du monstre à bord du vaisseau Nostromo. Cette sélection naturelle aurait pu en rester là, prendre fin en un seul film, mais Hollywood en tirera une loi. Si le pauvre John Hurt a accouché d'un alien au prix de sa vie, la superproduction a, elle, engendré une star, unique survivante du carnage, pilier en puissance de toute une saga, du darwinisme appliqué au casting. La science restera une seconde nature pour Sigourney Weaver, elle jouera plus tard l'anthropologue Diane Fossey, vouée à l'étude et la défense d'animaux menacés. Dans Gorille dans la brume en 1988. Et dans Avatar de James Cameron en 2009, elle dirigera un vertigineux programme de projection d'esprits humains dans des corps extraterrestres sur une planète lointaine. Tout le monde connaît son nom, Ripley, mais personne ne sait son prénom, Hélène. Car l'héroïne d'Alien, commandante de bord dès le deuxième volet, ne donne pas dans le style de féminité que les terriens mâles ont attribué aux femmes depuis la nuit des temps. Même en sous-vêtements minimaux, la tenue réglementaire pour le sommeil artificiel des astronautes, elle déjoue le voyeurisme. Sa quasi-nudité dit avant tout la vulnérabilité humaine face aux monstres de l'espace. Quand, en culotte, elle triomphe d'une agression de la créature, Ripley a tout d'une combattante galonnée. Le deuxième volet de la série, Alien le retour de James Cameron en 1986, évoque davantage un film de guerre que de science-fiction. Sur les quatre aliens que tourne Sigourney Weaver, un seul suggère une liaison entre Ripley et un homme. Dans Alien 3, réalisé par David Fincher en 1992. Et cette hypothèse n'excède pas 30 minutes. L'amant est vite liquidé par la bête. Les grandes histoires d'amour resteront rares dans la carrière de l'actrice, pauvre en comédie romantique. Dans Working Girl en 1988, elle se montre si odieuse que Harrison Ford se tourne vers Melanie Griffith. Et dans Gorille dans la brume, elle préfère renoncer à son petit ami qu'à ses singes en danger. Pour créer une nouvelle Ripley, suicidée par devoir à la fin d'Alien 3, elle abritait dans son corps un embryon de monstre, donne le clou du spectacle du film suivant, signé Jean-Pierre Jeunet en 1997. Car l'ADN récupéré in extremis sur la scientifique est impur, mélangé à celui de l'alien, d'où la naissance d'étranges créatures hybrides, pas toujours viables. De la même façon, peu d'actrices hollywoodiennes ont prolongé, depuis l'apport spécial de Sigourney Weaver, son autorité, sa solidité, sa puissance de feu, et tout cela au sommet du box-office mondial. Peut-être Angelina Jolie et son arsenal portatif dans Lara Croft en 2001 et 2003, sans doute Sandra Bullock, à la tête d'une nouvelle épopée de la survie dans l'espace, hein, Gravity en 2013, sûrement Charlize Theron, dur à cuire post-apocalyptique dans Mad Max Fury Road en 2015. L'hommage passe en l'occurrence par le crâne rasé, qui rend des Ripley encore plus singulières et androgynes dans Alien 3. Dans la fiction, il s'écoule 57 ans que l'héroïne passe dans un caisson soporifique, entre le premier Alien et le deuxième, et pas moins de 200 ans entre le troisième et le quatrième. Dans la réalité, les quatre films s'échelonnent sur près de deux décennies, ce qui est plutôt rare pour une série de blockbusters se référant les uns aux autres. Cette manière de revenir encore et encore, mais selon un rythme lent ou irrégulier, a fini par donner une forme à la carrière de Sigourney Weaver. Si elle est absente des 5e et 6e Alien tournés par Ridley Scott dans les années 2010, elle redonne la voix à Ripley en 2014 pour le jeu vidéo Alien Isolation. Surtout, elle réussit à s'imposer dans deux autres sagas fameuses et arythmiques du cinéma hollywoodien, d'abord SOS Fantôme, où elle tient un rôle principal en 1984 et 1989, avant une apparition spéciale dans la version de 2016 et celle prévue en 2021. Puis Avatar, dont le second volet est annoncé pour 2022. On y verra Sigourney Weaver reprendre l'emploi qui lui va décidément le mieux, l'inaltérable scientifique de l'espace. Voilà, survivante, commandante, suicidée, clonée, Sigourney Weaver endosse tous les rôles dans la saga Alien, une puissance de feu inégalée.
Radio G. 101.5 FM.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Bonsoir les geeks, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. C'est Anaïs d'Enbang Geek Mafia pour une nouvelle chronique lecture. Ce soir, j'ai décidé de la consacrer au thriller. J'ai eu le plaisir de découvrir en fin d'année plusieurs romans jeunesse qui sont effectivement tous des thrillers et qui nous plongent chacun dans des univers différents mais aussi qui questionnent des sujets de société. « Alors c'est parti, on commence tout d'abord avec un premier roman publié chez Rajo en 2020, Lanceur d'alerte. Son auteur, Jean-Christophe Tixier, est un habitué du polar. Il écrit à la fois pour la littérature jeunesse et pour les adultes. Lanceur d'alerte est un roman classé ado qui s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans environ. Il aborde ici un sujet peu traité, ces personnes qui prennent des risques pour dénoncer des faits mettant en danger la population, ou contraire à leur éthique, au risque d'être mis au banc de la société, voire pire. De quoi parle cette histoire ? Nathalie, la mère de César, a choisi de dénoncer par une vidéo les agissements très contestables de la société qui l'emploie, et qu'elle ne supporte plus de devoir accomplir. De quoi s'agit-il ? Elle doit, au volant de son camion, déverser régulièrement des produits toxiques pour l'environnement en pleine nature. Fermer les yeux ? Ou dénoncer le coupable ? Il semble qu'elle ait bien raison de dénoncer ses agissements. Mais les choses apparaissent plus compliquées. Elle risque bien évidemment de perdre son emploi, mais aussi elle met en péril celui de la plupart des gens du coin, puisque la CJK est une des seules entreprises de la région. De plus, son fils César va également souffrir de la situation. Il est d'une part stigmatisé par la plupart de ses camarades, et même agressé par l'un d'eux. Mais plus complexe encore, il est également le petit ami de Louane, fille de l'un des directeurs de l'usine. Bref, tout cela n'est pas si simple. Nathalie et César vont vite être débordés par la situation, avec d'un côté les militants écologistes qui, sous prétexte de les soutenir, vont plutôt les envahir, et la vindicte des employés de la CJK craignant pour leur travail. Tout cela est traité par Jean-Christophe Tixier de manière très abordable. Les cas de conscience sont clairement expliqués avec des personnages présentés avec leurs doutes et leurs nuances. Aucun manichéisme ici. Les arguments des uns et des autres sont défendables. Plein de rebondissements, ce livre se lit très très bien. Je recommande donc très largement ce roman bien écrit et accessible à tous les jeunes à partir de 13 ans.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
Nous l'avons vu, Jean-Christophe Tixier aborde avec Lanceur d'alerte un sujet sensible de notre actualité. C'est aussi le cas du deuxième roman que je vous propose ce soir. Une enquête du collectif Blackbone. J'ai commencé par le tome 2. Sans lire le 1, je vais y revenir. Ce tome 2 s'intitule Fashion Victim. Il a été édité chez Thriller Nathan en 2020. Alors, le résumé de cette histoire. Marie vient d'intégrer une école de journalisme. Elle décide d'enquêter sur les coulisses de la mode et sur les conditions de travail des ouvrières dans les usines textiles. Au cours de ses recherches, elle tombe sur un compte Instagram qui prend pour cible Yamaki, un célèbre mannequin. La top modèle vient de se suicider, et Marie la connaît. Il s'agit de la fille adoptive de Lucas Snyder, le puissant homme d'affaires dont elle a révélé les crimes au grand public avec l'aide de Léo et Andrea. Lucas Snyder est persuadé qu'ils sont responsables de la mort de sa fille. Il est prêt à tout pour se venger. Le deuxième volet des aventures du collectif Blackbone porte sur les coulisses de la mode. Il apporte une réflexion sur les nouveaux médias, le rôle du journalisme et les conditions d'exploitation des ouvriers dans les usines textiles. Je n'ai pas eu besoin de la lecture du premier tome, Coltan Song, pour comprendre, mais je vous conseille quand même de le lire en premier pour bien comprendre ce qui lie les différents personnages. Il faut souligner que ces histoires sont issues d'un travail d'un collectif d'écrivains. Manukos est un ancien enseignant, il a décidé de se lancer dans l'écriture, il est auteur en littérature générale et jeunesse et également traducteur. Emmanuel Urien exerce dans diverses entreprises avant de se consacrer entièrement à sa passion, la littérature, Elle est aujourd'hui autrice de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans. Marie Mazas est éditrice. En 2016, elle lance la collection Colibri aux éditions Belin pour offrir aux enfants dyslexiques des textes inédits des meilleurs auteurs de littérature jeunesse. La question écologique et l'écriture prennent une place de plus en plus grande dans son travail. La série collective Blackbone en est la première pierre. Enfin, Maëlys Jean-Préau est journaliste indépendante et a réalisé des reportages sur la vie des éleveurs nomades de Mongolie, sur les coopératives de café au Rwanda, etc. Elle anime aussi des ateliers d'initiation au journalisme. L'intrigue de ce tome 2 est passionnante, en tout cas. Elle captive le lecteur dès les premières lignes, lui permettant de se plonger immédiatement dans l'histoire. En outre, la narration était répartie entre les différents personnages, elle permet de percevoir de multiples points de vue et apporte ainsi des informations complémentaires à la compréhension de l'histoire. Je conseille donc pour des ados dès 15 ans cette série du collectif Blackbone qui mêle le journalisme, enquête à suspense et traite de l'écologie dans l'industrie actuelle.
On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On termine avec un dernier thriller haletant qui lui n'évoque pas un sujet de société brûlant comme les deux précédents, mais qui arrive à nous captiver malgré une thématique assez courante, les enlèvements d'enfants. Il s'agit du roman Keep Hope, écrit à quatre mains, celle de Nathalie Bernard et de Frédéric Portalet. Il s'agit d'une suite, mais qui là aussi peut se lire sans avoir lu le premier volet. En effet, après 7 jours pour survivre, Nathalie Bernard revient avec une nouvelle aventure pour un duo d'enquêteurs québécois. En effet, il s'est passé 2 ans depuis que Valérie Lavigne a quitté son poste au sein de la police de Montréal. Trop de pression, trop de souvenirs douloureux. Jusqu'à ce qu'un soir, à une station-service, elle croise le regard d'une jeune fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. Et si ce regard était celui d'un de ses avis de disparition qu'elle étudiait sans relâche dans son ancienne vie? Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Hope a 14 ans. Elle voyage tout le temps avec son père, dont le métier d'ingénieur forestier l'oblige à se déplacer constamment. La jeune fille aime cette vie itinérante, faite en même temps d'une routine bien organisée. Mais lorsqu'elle rencontre Louis, un garçon de son âge, elle se rend compte qu'elle aspire finalement à autre chose. Peut-être à une vie sédentaire, où elle aurait le temps de se faire des amis. Valérie Lavigne, donc, ancienne lieutenant détective de la police de Montréal, a toujours eu un instinct particulier pour retrouver les mineurs disparus. Mais sa dernière enquête l'a trop éprouvée pour qu'elle puisse continuer ce travail. Et c'est entre son potager et son travail de serveuse qu'elle semble avoir trouvé aujourd'hui un certain apaisement. Mais, au hasard d'un soir, tout bascule. Valérie Lavigne capte le regard de Hope. Elle en est certaine, Hope est une enfant disparue. L'intrigue est vraiment bien tournée, et jusqu'au bout, le lecteur est autant dans le noir que les personnages principaux. Les personnages sont bien incarnés, avec une histoire, un passé et des états d'âme qui les rapprochent du lecteur. Surtout celui de Valérie d'ailleurs. Vous aurez peut-être reconnu en fond sonore la musique du film La Nuit du Chasseur, qui est largement présent dans ce roman, mais je n'en dis pas plus. La réalité de la situation des autochtones saute aux yeux. Une disparition, une mort, pas d'enquête. Ils sont considérés comme alcooliques et chômeurs, impossibles à sauver. Bref, un beau racisme d'État intériorisé. C'est ce que l'auteur met en avant et semble dénoncer en filigrane. L'ensemble est très bien mené, l'écriture est dynamique et ce roman s'avale en une demi-journée. Il fait aussi partie de la sélection du prix des Incorruptibles 2020-2021, niveau lycée.
Thank you.
your fire, blazing the ashes of my pain. Feelings hot wired, my frozen blood runs free again.
Ce soir, voici les références des romans proposés. Lanceur d'alerte de Jean-Christophe Tixier chez Rajo, Collectif Blackbone et plus précisément le tome 2, Fashion Victim, édité chez Nathan, et Keep Hope de Nathalie Bernard et Frédéric Portalet chez Thierry Magny. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, restez à l'écoute de Bande Geek Mafia sur les ondes de Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Time is a liar. Just when I thought I'd walk away, love is riding high. My feelings shifted, they're on way. Oh.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Bonjour, aujourd'hui je vous présente la BD David Bowie, une bande dessinée originale, une bande dessinée documentaire. C'est une BD, en fait, scénarisée par Thierry Lamy, avec une bonne dizaine de dessinateurs, des textes biographiques, Nicolas Finet. C'est une BD aux éditions Petit à Petit. Je dirais que la force, l'incroyable force de cette bande dessinée, de retracer le parcours éclectique et incroyable de David Bowie, justement, de montrer qu'avec les différents dessinateurs, nous avons cet éclectisme propre à l'artiste, mais en même temps, peut-être de nous perdre un peu dans différents styles, différents dessins, peut-être que moins de dessinateurs auraient donné une meilleure unité à la bande dessinée. Ceci dit, elle est très riche, très belle, très complète, je vous la recommande vivement. Je vais vous lire donc quelques extraits pour peut-être vous donner envie de la lire et de l'acheter.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. The
stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
En 1966, quand David Jones devient David Bowie. Débordant d'énergie et d'ambition, le jeune David Jones n'avait pas imaginé que la route du succès serait à ce point harassante. Toutes ses tentatives pour changer de look, de groupe ou de style musical ont fait long feu. Malgré ses premiers 45 tours, rien ne marche. David Jones reste encore et toujours un espoir prometteur, pas davantage. Habité envers et contre tout, par la certitude d'avoir un destin, il tente alors une nouvelle approche, adopter un nouveau nom. 1969, avec sa pochette inspirée de Victor Vasarely, Space Oddity sort un an après le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui l'a sans doute en grande partie inspiré. L'Amérique dans l'espace. L'avenir, et une fois encore, une impulsion venue d'Amérique, lui donnera raison. Repéré par les chercheurs de talent de la maison de disques anglo-américaine Mercury, la chanson et son interprète sont choisis pour faire écho à un événement considérable, la mission Apollo 11, conçue par la NASA, première tentative d'alunissage de l'humanité sur son satellite naturel. Produit par Gus Dudgeon, qui deviendra un peu plus tard l'un des producteurs attitrés d'Elton John, Space Oddity sort en single le 11 juillet 1969, 10 jours avant les premiers pas historiques de Neil Armstrong sur la Lune. La séance d'enregistrement est réalisée avec des musiciens de studio, parmi lesquels figure une autre figure star, le claviettiste Richard Rick Wakeman, qui s'illustrera un peu plus tard sur Hunky Dory, le piano sur Changes ou Life on Mars. C'est lui, avant d'être recruté par Yes, géant du rock progressif anglais. La chanson Space Oddity atteindra la 5e place aux charts britanniques, soit la première vraie percée de David Bowie auprès du grand public. Le jeune homme qui rêvait de gloire a enfin cessé d'être un inconnu. Mais il n'est pas encore une star, loin de là. Anticipant de possibles critiques au cas où la mission Apollo 11 s'avérait un échec, Mercury n'a fait aucune promotion du titre aux États-Unis, où Space Oddity est passé totalement inaperçu. Heaven can wait, le ciel peut bien attendre encore un peu. 1972, Top of the Pops, le décollage de la légende. Tout se précipite après Hunky Dory, qui connaît un joli succès d'estime. Avec les trois musiciens de The Hype, rebaptisés les Spiders from Mars, David Bowie sent qu'il tient enfin le bon groupe. Plus encore, le Bowie songwriter est désormais aussi accompli que le Bowie interprète. La rencontre décisive de l'Amérique et de ceux qui l'y côtoient, Lou Reed, Iggy Pop, la faune interlope du New York Underground, sera le moment de cristallisation du personnage de Ziggy Stardust, que Bowie rôde pour la première fois à la télé britannique sur le plateau de Top of the Pops le 6 juillet 1972. Un extraterrestre nommé Ziggy. Devenu Ziggy Stardust, David Bowie a changé d'être, de stature, de statue. Porté par cet intrigant personnage d'extraterrestre exubérant, il est désormais une superstar. Et en superstar, il se comporte. Débuté en Grande-Bretagne, poursuivi des mois durant aux États-Unis puis au Japon, la tournée Ziggy est un triomphe absolu. Et les disques qui l'accompagnent font le fabuleux Alan Insane, confirme haut la main que David Bowie est désormais un artiste majeur de son temps, qui à l'insu de tous s'apprête déjà, dans le secret de son âme, à changer encore de personnage. 1976-1979. Rendez-vous à Berlin. L'Amérique est un piège rutilant, mais sans fin et sans issue. Pour se déprendre de ce dangereux mirage, David Bowie prend une décision radicale, partir en immersion dans l'endroit le plus improbable du monde, de l'autre côté de la planète, Berlin. Là où se font face les démons de la guerre froide, juste au bord de l'apocalypse. Ce choix étrange et déroutant aura pourtant sur lui un effet rédempteur. Rescapé de ses errances et manifestement épanoui d'avoir su nouer les fils d'une nouvelle vie, l'ex-Ziggy Stardust livre en 3 ans les chapitres successifs de ce qu'on appellera plus tard la trilogie berlinoise. Une fois encore, l'empreinte d'un géant. La rédemption sera d'autant plus spectaculaire que Bowie enchaîne presque aussitôt, toujours dans les studios Hansa de Berlin-Ouest, avec l'album central de sa trilogie berlinoise. Porté par une chanson-titre exceptionnelle et son riff entêtant, signé du génial guitariste de King Crimson, Robert Fripp, sans oublier une magnifique photo de pochette qui s'amuse discrètement à faire de l'œil à The Idiot de Iggy Pop, Heroes est une splendeur, restée depuis comme une étape décisive du parcours de l'artiste. 2014-2016, la dernière danse. Retiré du monde David Bowie, ça aurait été bien mal le connaître. Pas loin de 10 ans après son semblant de retraite, l'artiste revient, presque par surprise, avec un nouveau disque concocté en secret, The Next Day. Et c'est un triomphe, qui sera hélas de courte durée, rattrapé pour de bon par la maladie. David Bowie conçoit son tout dernier album Black Star comme son show ultime. Jusqu'au bout, David Bowie aura mené son existence comme un spectacle total. Chapeau l'artiste. Je vous lis la 4e de couverture. C'est donc David Bowie en BD. Il attend rêver d'étoiles plus de 40 ans durant. David Bowie a été un astre majeur de la musique. Il en est désormais une légende. Voici son extraordinaire histoire. David Bowie en BD, aux éditions Petit à Petit. Bonne lecture, à bientôt.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un top 5 des séries 2020. Le Bureau des Légendes saison 5. Certes, cette cinquième et dernière saison a divisé, mais les espions de la DGSE continuent de nous bluffer, grâce notamment à une conclusion pilotée par Jacques Audiard lui-même, un bijou de réalisation et de mélancolie. C'est sur Canal+. Ensuite, The Crown saison 4, avec l'arrivée de Margaret Thatcher, jouée par Gillian Anderson, et de Lady Di, par Emma Gorin. Le culte autour de la chronique royale de Netflix est devenu quasi incontrôlable. On valide. Le jeu de la dame. Personne ne l'avait vu venir. Pourtant, cette série sur une orpheline qui devient championne d'échecs nous a séduit par sa reconstitution historique pop, son héroïne singulière, interprétée par Anya Taylor-Joy, et sa mise en scène furieusement incarnée, échec et mat. The Plot Against America, en adaptant le roman de Philip Roth, qui imagine la victoire électorale de l'aviateur sympathisant nazi Charles Lindbergh, le showrunner David Simon livre une réflexion glaçante sur les démons qui hantent les États-Unis, sur OCS. Unorthodoxe, Esther a grandi dans une communauté hassidique de New York. Mariée de force, elle s'enfuit à Berlin où réside sa mère, une mini-série allemande qui parvient à doser romantisme et suspense, toujours sur Netflix. Voilà, c'est une petite sélection. Bien sûr, on aurait pu parler de I May Destroy You, de I Know This Much Is True, Laetitia, Normal People, Tales from the Loop. Mais vraiment, on peut vous conseiller Le Bureau des Légendes, The Crown, Le Jeu de la Dame, The Plot Against America, Unorthodox.
Life it was. I saw. I énorme.
Ce soir, je vais vous présenter deux chaînes YouTube, celle de Denis Chiriaïev et celle de Ronan, qui va au théâtre. Alors d'abord, Denis Chiriaïev. C'est un grand curieux et touche-à-tout. Il s'est pris de passion pour l'intelligence artificielle et le machine learning. Il y a quelques années, ce moscovite de 32 ans, à la tête de Neural.love, une société qui améliore et restaure d'anciennes séquences vidéo grâce à ses outils, voulait partager ses expériences avec un plus large public. Je suis fasciné par l'idée que nous vivons dans un monde de science-fiction et que nous ne le réalisons pas encore, tant nous avons accès à d'étonnantes technologies. S'enthousiasme le développeur qui a créé sa chaîne YouTube en 2012 pour faire connaître ses réalisations. Le passé devient plus réel quand nous pouvons le voir et le vivre d'une manière proche de ce que l'on filme aujourd'hui, assure le vidéaste russe, qui n'apparaît quasiment pas dans ses capsules. Haute résolution, colorisation, nombre plus élevé d'images par seconde, Denis Chiriaïev ne recule devant rien pour raviver les extraits de films anciens dénichés. Les déambulations dans les rues de New York, de Tokyo ou d'Amsterdam au début du siècle dernier deviennent plus vraies que nature. Le réalisateur, lui, se charge d'indiquer les technologies utilisées pour les mettre au goût du jour. « Je veux que la démarche soit accessible au plus grand nombre », promet-il. Un voyage dans le passé fascinant. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait celle de Paris, à la fin des années 1890. Des calèches aux abords de Notre-Dame jusqu'aux gamins et leurs petits bateaux de bois au jardin des Tuileries, on s'y croirait, enfin presque. Deuxième chaîne YouTube ce soir, celle de Ronan au théâtre. Ronan vient d'un milieu qui a peur du théâtre. Il est vichysois d'origine, et le déclic lui est venu lors d'une sortie scolaire, une révélation pour le néophyte d'alors, voguant aujourd'hui dans le milieu en tant que responsable marketing et communication d'une salle. C'est en 2016, alors qu'il officie à la billetterie de l'Odéon, que YouTube devient une évidence. J'étais agacé de voir toujours le même public, d'où mon envie d'utiliser un outil de ma génération pour parler aux plus jeunes. Ronan Inard emmène les internautes partout avec lui, des coulisses étincelantes des salles de spectacle jusqu'à sa modeste chambre, le vidéaste donne à voir sa vie de théâtrophile. La gueule de travers le matin, mais fait aussi partie du Festival d'Avignon, s'amuse le jovial garçon de 28 ans, qui veut incarner le sujet de façon décontractée, jean et basket aux pieds. Critique de spectacle à chaud, visites commentées et rencontres avec des personnalités font partie du programme, plutôt axé contemporain, immersion garantie. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait la discussion avec Édouard Louis. L'écrivain Picard revient avec émotion sur sa découverte du théâtre et ses expériences, parfois marquantes, en tant que spectateur. Un parcours parlant et inspirant pour toutes celles et ceux qui n'oseraient toujours pas franchir le seuil d'une salle. Voilà pour ce soir. Je vous rappelle les deux chaînes YouTube, celle de Denis Chiriaïev et celle de Ronan au théâtre.
Hey there, brother, watch your little lady, she's a little faster than you think. Hey there, brother, watch your little lady, she be sneaking around every time you blink. Now I don't know how she got my number. She been calling all through the summer, saying she really need to see the plumber. Now don't that make you wonder? Hey there, brother. Hey there, brother. Hey there, brother, watch your little mama. She's a little handful, yes she is. Brother, watch your little mama, got herself a handful, yes she did. Now can't you see you getting played the fool? She letting everybody take her to school, all up in the backyard shooting the pool. And I don't mean to sound cool, but hey there, brother. Hey there, brother. Well, the world.
word on the street is that it won't be long before she packs up and moves on. She's just using you like a pawn. Now don't you think it's wrong? Hey there, brother. Hey there, brother.
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
I wonder if I'm the Milky Way
under the sun. I wonder when if I'm the freeway with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong.